13h10, temps universel, c'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour Anne, bonjour à tous. Il est 9h10 à New York et à Port-au-Prince. À la une de l'actualité d'Haïti et des Amériques, ce lundi, deux fusillades aux États-Unis ce week-end. On reviendra dans la revue de presse sur les motivations du tireur qui a tué 10 personnes, principalement des Noirs, dans un supermarché de l'État de New York ce samedi. La campagne est lancée pour les midterms, les élections de mi-mandat. Primaire républicaine demain, mardi, en Pennsylvanie, nous y serons. En Haïti, la violence des gangs perturbe l'économie. Les entreprises peinent à reprendre leurs activités dans les quartiers nord de Port-au-Prince. On entendra un représentant des chefs d'entreprise. Et puis dans une quinzaine de minutes, le journal des Outre-mer avec Alex Leveillé. Nous irons aux Antilles françaises menacées par les inondations.
Ah oui, dans 20 ans, toute une partie de la Martinique et de la Guadeloupe pourrait être sous les eaux. Et puis nous irons aussi à la rencontre de la chanteuse guyanaise Valérie Tribord.
On vous retrouve dans 15 minutes donc, Alex Leveillé. À tout à l'heure. La revue de presse des Amériques et ses deux fusillades meurtrières en l'espace de quelques heures aux États-Unis ce week-end. Jeff Allock, shérif adjoint du comté d'Orange en Californie, est revenu sur la fusillade qui a fait un mort et quatre blessés ce dimanche dans une église.
Nous pensons qu'un groupe de fidèles l'a arrêté, lui a attaché les jambes avec une rallonge électrique et lui a confisqué au moins deux armes. Ce groupe de fidèles a fait preuve de ce que nous considérons comme un héroïsme et une bravoure exceptionnelle en intervenant pour arrêter le suspect. Ils ont sans aucun doute évité des blessures et des décès supplémentaires.
Bonjour Marie Normand.
Bonjour.
Une fusillade en Californie qui est intervenue moins de 24 heures après celle qui a visé un supermarché de Buffalo dans l'État de New York. 10 morts, l'un des massacres racistes les plus meurtriers de l'histoire récente du pays, qui fait encore aujourd'hui la une de la presse américaine. Elle revient sur l'inquiétante progression de la théorie du grand remplacement aux États-Unis, Marie.
Oui, cette théorie épousée par le suspect du massacre, selon laquelle les élites occidentales, parfois manipulées par les Juifs, je cite, veulent remplacer les Américains blancs. Théorie formalisée, comme le note le Washington Post, il y a plus de 70 ans par un ancien gouverneur du Mississippi. Récemment, poursuit le New York Times, la théorie du grand remplacement était restée confinée à d'obscurs forums de discussion ou à des sites de nationalistes blancs. Mais aujourd'hui, elle est devenue courante. On la retrouve partout, d'ailleurs, dans le manifeste de 180 pages rédigé par ce tireur de 18 ans, note Mother Jones. USA Today rappelle que le FBI avait alerté l'année dernière que le plus gros morceau des quelques 2000 enquêtes terroristes ouvertes aux États-Unis concernait des attaques à motivation raciale.
La presse s'inquiète que cette théorie fasse vendre.
Oui, la peur qu'elle cristallise celle d'une Amérique dans laquelle les Blancs ne seraient plus la majorité. Cette peur est devenue une force puissante dans les médias et la politique des conservateurs, écrit le New York Times. Elle a été remixée pour attirer les audiences, les retweets, les petits dons en dollars aussi. Le Times épingle notamment dans une grande enquête l'animateur de Fox News, Tucker Carlson. Il a relayé dans plus de 400 épisodes de son émission l'idée que les démocrates et d'autres élites cherchaient à pousser un changement démographique par le biais de l'immigration pour amener aux États-Unis des électeurs plus obéissants. Mother Jones note que l'adhésion à ces idées suprémacistes est maintenant le pain et le beurre du reste du parti républicain. Le Washington Post souligne aussi ce virage radical pris par un nombre croissant de républicains, notamment la numéro 3 de la Chambre des représentants. Elle s'appelle Elise Stefanik. Une banalisation évoquée également aujourd'hui par le journal canadien La Presse, qui note les résultats éloquents de ce sondage publié lundi dernier par l'agence AP. Un bon tiers des Américains et près de la moitié des Républicains pensent qu'il y a un groupe de personnes aux États-Unis qui essaient de remplacer les Américains par des migrants qui partagent leurs opinions politiques.
Merci Marie, on vous retrouve tout de suite pour la suite de la revue de presse. Les directions maintenant, le Canada du milieu du 19e siècle à la seconde moitié du 20e siècle. Plus de 150 000 enfants autochtones ont été forcés d'aller dans des pensionnats tenus par l'Église au nom de l'État. Ils y étaient maltraités, coupés de leur famille, convertis au catholicisme. Le pape François a présenté des excuses très attendues de l'Église le mois dernier. Il se rendra au Canada à les présenter à nouveau en juillet en faisant étape à Québec, au Nunavut ou encore en Alberta, mais n'ira pas dans plusieurs lieux symboliques pour les Premières Nations du pays. Précision de notre correspondant au Canada, Alexis Gacon.
Le parcours du pape François ne satisfait pas plusieurs communautés autochtones du Canada. C'est le cas pour celle de Colombie-Britannique, sur la côte ouest du pays. C'est dans cette province qu'ont été retrouvés l'an dernier, à Kamloops, les restes de 215 enfants autochtones qui avaient été enterrés sur le terrain d'un ancien pensionnat. Cette découverte a été un élément déclencheur de la visite papale. Alors la chef d'une première nation de la province, Rosanne Casimir, parle d'une occasion manquée de venir sur les lieux du plus grand pensionnat que l'Église catholique romaine a géré au Canada. Une déception partagée aussi en Saskatchewan, au milieu du pays où d'autres tombes anonymes avaient été découvertes l'été dernier. Le pape n'y passera pas non plus. Pour plusieurs leaders autochtones, la visite est trop courte au vu de l'ampleur du drame qui s'est joué dans les pensionnats et il faut ajouter des étapes au parcours. Mais les évêques canadiens expliquent que le trajet doit être adapté à la santé fragile du pape qui est apparu dernièrement en fauteuil roulant. La conférence des évêques catholiques du Canada pourrait aider financièrement les communautés autochtones éloignées qui souhaitent assister au passage du pape. Alexis Gacon, Montréal, pour RFI.
Le Canada où un projet de loi cristallise les tensions actuellement.
At about 1:26 p.m. this afternoon, a male subject opened fire here at the Geneva.
C'était donc samedi, pardon, dans le centre-ville de Montréal, des milliers de personnes ont manifesté, Marie-Normand, contre un projet de loi qui pourrait mettre
beaucoup de pression hein, dans le pays, notamment à l'approche des élections. Hein, donc manifestation à coup de slogans du genre « Québec libre 196 ». C'est un projet de loi qui vise à assurer la vitalité et l'avenir de la langue française au Québec. Certains manifestants dénoncent malgré tout un projet de loi discriminatoire à l'égard des anglophones, notamment dans l'accès aux soins. Les médecins devront parler français et dans l'éducation, car les collèges anglophones seront obligés de dispenser des cours de français ou des cours en français. Plusieurs étudiants, bien sûr, cela leur déplaît, comme ils l'expliquent hein, dans le journal anglophone Montréal Gazette. L'élito de ce journal soutient que cette loi nuira non seulement à de nombreux Québécois anglophones, mais aussi à l'ensemble de la province. Voilà, on entend à l'instant cette étudiante, Justine.
Et puis un mot du Chili pour terminer. Aujourd'hui se tient une session plénière de l'Assemblée constituante dans les ruines de Huanchaca, Antofagasta. Cette Assemblée va présenter son projet de nouvelle constitution.
Oui, après 10 mois de travail, elle s'est mise d'accord sur un premier texte qui atteint 50 000 mots, ce qui en fait une constitution excessivement longue, juge la Tercera, des centaines d'articles de plus que le texte actuel, plus long que les autres constitutions d'Amérique latine, texte remis aujourd'hui à une commission d'harmonisation chargée de monter la version finale que les Chiliens valideront ou non par référendum le 4 septembre.
Merci Marie-Normand. Aux États-Unis, plus que 8 mois avant les élections de mi-mandat, la campagne est déjà lancée avec les primaires pour désigner les candidats. En ce moment, les yeux sont rivés sur la Pennsylvanie, dans cet état du nord-est du pays, à la fois rural et industriel. Les électeurs républicains choisissent leur candidat au poste de sénateur. Quels sont les enjeux de cette primaire ? Reportage de notre correspondant permanent aux États-Unis, Guillaume Nodin.
Vous allez envoyer le Dr Oz se battre pour vous au Sénat.
C'était il y a quelques jours dans l'ouest de la Pennsylvanie. Sous une pluie battante, Donald Trump encourage le candidat qu'il a choisi, le Dr Oz, un médecin devenu un peu comme lui, une célébrité télévisuelle. Malgré ce soutien de poids, le Dr Oz ne parvient pas à se détacher dans les sondages qui annoncent un match à 3.
I am ready.
Avec notamment Cathy Barnett, une afro-américaine sans grands moyens, mais qui met en avant sa proximité avec les gens. Nous la retrouvons à Southampton, dans la banlieue de Philadelphie, au cours d'un dîner avec des membres du Parti républicain et des soutiens comme Susie Ledlow.
Vous connaissez Trump, il dit toutes sortes de choses. Je ne sais pas pourquoi il a choisi Oz. Il n'aurait dû choisir personne dans la primaire de Pennsylvanie, parce qu'il y a plusieurs bons candidats. C'est son droit, mais je crois qu'il n'aurait pas dû.
Donald Trump et son influence sur le parti sont partout. Tous les candidats doivent le ménager et faire des clins d'œil à son électorat. Cette chanson, c'est celle qui accompagne les discours de l'ancien président. Et elle est diffusée lors d'une réunion de Dave McCormick, autre candidat bien placé, ancien militaire et ancien chef d'entreprise. Nous sommes dans le comté de Lancaster, en plein pays Amish, une communauté religieuse chrétienne qui refuse la technologie moderne. Le comté a voté majoritairement Trump en 2020. Impossible de l'éviter. venu soutenir Dave McCormick, le sénateur du Texas Ted Cruz, le sait bien.
Chaque républicain qui se présente dit « J'adore Donald Trump ». Non, 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 j'adore encore plus Donald Trump. Non, 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 j'ai Donald Trump tatoué sur le derrière. Comment se décider ? Je vais vous dire ma philosophie. Je soutiens le candidat le plus conservateur capable de gagner.
Et conservateurs, ils le sont tous, anti-avortement, pro-armes, bien sûr, quasiment des prérequis chez les républicains. Parmi les thèmes de campagne qui reviennent le plus souvent, il y a l'immigration. À Lancaster, on est loin du Rio Grande, mais le contrôle de la frontière sud est important pour Joe Szymanski, un étudiant de 21 ans.
J'ai quelques amis là-bas, au Texas, et ils disent que l'un des principaux problèmes, c'est que les règles qui étaient appliquées auparavant ont été levées et qu'il y a pas mal de problèmes sur ce qu'ils sont censés faire là-bas. Et je crois que nous devrions renforcer les restrictions qu'on applique là-bas, choisir qui nous laissons entrer. Je crois à l'immigration. Mon arrière-grand-père était un immigrant polonais, donc je crois à l'immigration, mais à l'immigration légale.
Autre thème récurrent, l'inflation qui inquiète Mary, une retraitée du nord-est de Philadelphie.
Il y a tant de personnes qui travaillent énormément et qui payent de plus en plus, toujours plus, à la pompe, à l'épicerie. On en arrive à un point où les gens doivent vraiment se rendre compte de ce qui arrive.
Un reproche unanimement adressé à l'administration Biden, considéré comme éloigné des préoccupations des gens et responsable de tout ce qui ne va pas puisqu'il est au pouvoir. C'est le principal problème de Diana White, une habitante de Millersville, près de Lancaster.
J'espère juste que l'Amérique va ouvrir les yeux et voir que nous allons dans la mauvaise direction. Je ne comprends pas que chacun ne voit pas toute la haine dans notre pays. Nous devons nous rassembler et comprendre ce qui est le mieux pour notre pays. Et le président que nous avons maintenant ne fait pas attention à nous.
Tous savent que l'élection de ce mardi en dira beaucoup sur l'état du pays et sur ce à quoi il faut s'attendre en novembre. Guillaume Nodin, de retour de Pennsylvanie, RFI.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
En Haïti, les gangs pénalisent durement l'activité économique du pays. Après les violences pendant lesquelles les gangs ont tué au moins 148 personnes la semaine dernière, le nord de Port-au-Prince vit toujours avec la peur que les affrontements reprennent. Difficile aussi dans ce contexte pour les entreprises qui sont installées dans cette plaine du cul-de-sac de reprendre sereinement leurs activités. Grégory Brandt, le président de la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie, s'était insurgé récemment de l'insécurité généralisée qui règne dans le pays. Au micro de notre correspondante Amélie Baron, il dit vouloir rester optimiste, mais dresse un sombre tableau de l'environnement économique d'Haïti.
Il faut garder espoir qu'on arrivera à maintenir cette zone et la ramener à un niveau sécuritaire qui permet justement que les employés puissent se rendre paisiblement à leur lieu de travail et que les usines puissent fonctionner en recevant leurs matières premières, leurs intrants, pouvoir sortir leurs marchandises de leurs dépôts.
La sortie ouest de Port-au-Prince, on va dire, ça fait presque un an que cette zone, sur l'aspect routier, est contrôlée par des gangs. Comment quelqu'un qui se trouve dans le sud ou qui veut faire affaire avec la moitié sud du pays peut faire, doit faire ? Il faut payer les gangs pour passer ?
S'il veut maintenir ses emplois, s'il veut maintenir sa production et faire face à ses obligations bancaires, il est harcelé par les gangs qui demandent donc de payer un coût de passage pour que ces marchandises puissent alimenter le réseau de distribution du sud du pays. Ça fait plus d'un an, un an et demi que ça dure. C'est installé. Ça devient maintenant quelque chose de structurel.
Est-ce qu'il y a une crainte aujourd'hui que ce que l'on voit sur Martissant, sur la sortie ouest de Port-au-Prince, se répande notamment sur la plaine du cul-de-sac où il y a eu ces violences ?
Le gang trouve ses revenus dans le contrôle des routes. La nationale numéro 1 va vers le nord, donc c'est la principale, et elle passe à proximité de deux ports de marchandises intrants, donc c'est deux infrastructures incontournables. Et la nationale numéro 2 elle passe à côté des terminaux pétroliers, qui sont aussi des éléments stratégiques de négociation, de prendre un tanker de fuel, bon, c'est juteux comme butin. L'axe du sud, selon ce que je peux lire, ce qu'on dit, c'est pas moi qui le dis, c'est public, enfin presque, c'est l'axe de la drogue qui vient du sud de l'île, qui doit transiter par la nationale numéro 2 vers Port-au-Prince et aller en République dominicaine et aux États-Unis. Donc pour un gang, c'est un axe stratégique et pour celui qui est dans un négoce illicite de drogue, etc., c'est un axe vital.
Autour de cet axe vital, il y a des entrepreneurs, tout ce qu'il y a de plus légaux, de commerce licite. Est-ce qu'il y a eu des entrepreneurs qui ont déjà jeté l'éponge en se disant « on ne fait plus d'affaires en Haïti parce que c'est dangereux, d'avoir des gens qui se font enlever, d'avoir de la marchandise qui est détournée, et ce surcoût de sécurité, ils ne veulent pas, ne peuvent pas ou ne veulent pas le payer.
La réaction la plus commune, c'est qu'on réduit les affaires au strict minimum, on n'investit pas, et si on a de l'épargne, on va faire cette même opération dans un endroit sécuritaire où l'environnement économique est plus stable, l'environnement politique est prévisible, on va en République dominicaine. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, oui, des dizaines et dizaines d'entrepreneurs haïtiens qui ont déjà migré en République dominicaine pour faire exactement les mêmes affaires. Et ici, ils tiennent uniquement la boîte à flot, mais pas d'expansion. S'il y a une expansion, elle se fait en République dominicaine. Haïti a investi en 2021 et 2022 plus de 250 millions de dollars en République dominicaine. C'est ce qu'il faut démontrer, hein. C'est QFD, on est mal parti. Donc il faut réellement une onde de choc en Haïti pour que les choses changent. Imaginez que ça a été dit il y a 50 ans.
Il y a 40 ans avec le pape.
Il y a 40 ans par le pape Jean-Paul II ici. Il est à Haïti, il faut que quelque chose change. Mais je me retrouve en 2022 à trouver qu'il faut que quelque chose change en Haïti. Vraiment, il faut que ça bouge, hein, dans le bon sens.
Grégory Brandt, le président de la Chambre de commerce franco-haïtienne, de commerce et d'industrie, pardon, au micro de notre correspondante en Haïti, Amélie Baron.
Le journal de l'Outre-mer.
Présenté par Alex Léveillé. Bonjour.
Bonjour Justine.
Aux Antilles, les inondations brutales vont s'intensifier d'ici 2040.
Et certaines zones de Guadeloupe et de Martinique pourraient devenir inhabitables, selon Virginie Duvat, professeure de géographie à l'Université de La Rochelle et auteure du chapitre consacré aux impacts du réchauffement climatique dans les petites îles. Les explications avec Franck Aristide de Guadeloupe, la première.
Les simples mesures de restauration de la mangrove ou de replantation des coraux ne suffiront pas à atténuer le dérèglement climatique. Nous devons nous attendre à des cyclones de plus en plus violents, avec des destructions similaires à celles qu'a connues Saint-Martin avec Irma. Mais la submersion marine menace également en cas de pluie et de marée haute combinée, à l'image des récentes inondations de Pointe-à-Pitre, Gosier, Abîme. Jarry est aussi en danger. Dans moins de 10 ans cette fois, l'activité de la zone industrielle sera perturbée par les intempéries. Sans changement majeur de politique, il faudra s'attendre à 6 mois de submersion par an d'ici 40 ans. Et dans de telles conditions, agriculture et pêche côtière deviendront presque impossibles, avec pour conséquence une baisse des ressources alimentaires locales. Tout cela, pour cette géographe, c'est déjà demain.
Franck Aristide de Guadeloupe, la première. Culture maintenant avec la première édition du Festival international de musique et des arts de Dakar. Il s'est achevé le week-end dernier. Parmi les invités, la Guyanaise Valérie Tribord. Elle y présentait son deuxième album, Jesse Xavier de Guyane, la première.
Le continent africain, un terrain d'expression et de partage que Valérie Tribord connaît très bien.
Je vais très très régulièrement en Afrique, je m'y rends quand même quasiment depuis plus de 25 ans pour y donner des concerts. Le premier retour que je peux avoir notamment sur ce festival en question, ce sont des retours extrêmement positifs parce qu'en fait ils permettent aussi la rencontre avec des artistes d'horizons différents.
Son nouvel album, Mon Voyage, dit tout, la découverte. La carte d'identité justement que veut se donner le festival de Dakar.
Alors c'est vrai que moi j'expérimente depuis de très nombreuses années et aujourd'hui de présenter ma musique, forcément l'échange ne peut être que d'une richesse assez incroyable. Et du coup je crois qu'on se nourrit les uns et les autres des musiques de chacun finalement.
L'artiste mène de front ses deux carrières, choriste et chanteuse pour ses propres projets. Avec la reprise des agendas culturels un peu partout, Valérie Tribord a déjà plusieurs dates pour les prochains mois et on espère encore plus l'an prochain.
Des dates sont annoncées sur la Guadeloupe et la Martinique, et puis là très rapidement sur la Côte d'Ivoire et le Cameroun, et puis de très nombreuses dates courant 2023 et très bientôt en Guyane, je l'espère.
Valérie Tribord, une artiste antillo-guyanaise à découvrir absolument. Voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Merci Alex Leveillé, bonne journée à vous aussi. Et merci à Claude Battissa, à la réalisation de ce rendez-vous de l'actualité des Amériques et d'Haïti.
RFI. Les voix du monde.